La question de Jaïs.
Je vous demandais quelle était la place accordée à la culpabilité dans la Torah. Donc si elle sert à quelque chose, à quoi ça sert, la culpabilité? Et si ça ne sert à rien, ou ça ne sert pas, comment ça se fait que des personnes qui sont croyantes, ou des personnes pas croyantes, elles en arrivent à un moment de leur vie, à un moment ou un autre de leur vie, à culpabiliser, quelle que soit la raison, sur leur choix, sur leurs décisions, sur les projets qu'ils prennent
Il faut bien comprendre. Il y a toujours qu'est-ce que je fais moi et qu'est-ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, Dieu, jamais, au grand jamais, ne châtie ou punit. Bien qu'il est marqué dans les 13 articles de foi de Maïmonide que Dieu châtie les réchaïm, les impies, et récompense les tzadikim, c'est pas dans le sens de châtiment et de récompense. C'est dans le sens de conséquences positives ou négatives de tes actes. Je prends toujours l'exemple suivant. Je dis, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? En deux mots, c'est quoi la Torah? La Torah signifie l'ensemble des lois qui gèrent. C'est ça la Torah. T'as la Torah d'un micro. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? La Torah d'une voiture, la Torah d'un chien, la Torah du monde. La Torah du monde, c'est notre Torah qui va expliquer le but et le comment, le pourquoi et le comment. Bereshit. Pour Reshit. Chazal dit Bereshit. Bereshit, je vais expliquer un peu mieux. Bereshit signifie en traduction littérale au début de. Bara Elohim créa Dieu. Au début de créa Dieu, c'est pas du français, c'est pas d'hébreu non plus. C'est pour cela que Chazal en fait une dracha. Une dracha, ça veut prendre le sens allégorique. On dit Bereshit, ça veut dire. Pour Reshit, B signifie pour. Evedra Berachel, je te servirai pour Rachel, comme ça dit Jacob à son futur beau-père. Et B signifie aussi au moyen de. Aniochel Bemazleg, je mange au moyen d'une fourchette. Donc, pour Reshit, pour une chose première, et au moyen d'une chose première, Dieu a créé le monde. Ça veut dire, chaque objet qui existe sur Terre, passe-moi ce verre jetable s'il te plaît. Que voici. Cet objet a été créé. Avant qu'il soit créé lui-même, il y a deux choses qui l'ont précédé. Il y a eu un pour et il y a eu un comment. Un pourquoi. Il y avait un besoin, il y avait une nécessité de créer quoi? Un contenant de liquide. Bon marché, jetable, pratique. Ça, c'était la motivation. Après, il y a eu un comment on arrive à ça. On recherche un matériau bon marché. On va construire la chose de façon pratique, que quand on le pose, il ne tombe pas. Donc il faut qu'il soit plat dessous, qu'il soit léger. Ici, tu as vu, c'est un peu rugueux, d'accord, pour pas que ça glisse. C'est transparent. Il y a une certaine utilité. Il y a un petit rebord ici pour quand on met plusieurs l'un sur l'autre, il ne s'enfonce pas. Tout ça est calculé de façon extrêmement intelligente pour qu'on arrive à réaliser le but. Une fois qu'on a eu le but, la motivation, qu'on a eu après la réflexion, le comment, il y a le passage à l'action, c'est la création de cela. Il n'y a aucun objet au monde qui a été créé, auquel n'ont pas précédé ces deux étapes. D'abord, une motivation à pourquoi j'ai besoin de créer cet objet, de comment je réalise la réponse à ce besoin, c'est l'objet, comment il va répondre en cela, c'est toute la Torah de la chose, et troisièmement, l'objet. Ces deux premières choses qu'on appelle le pourquoi et le comment s'appellent la Torah. La Torah. Bereshit pour la Torah. D'accord? C'est au moyen de Torah, le monde a été créé. Ça veut dire que la Torah, elle est l'ensemble des lois qui gèrent ce monde, répondant aux questions du pourquoi et du comment. Maintenant, la Torah vient me donner le pourquoi et le comment de ce monde au niveau métaphysique. Pas au niveau physique, parce qu'au niveau physique, j'ai pas besoin de Torah. J'ai les cinq sens, j'ai ma raison, je peux, grâce aux cinq sens et ma raison, analyser le monde et en déduire. Je sais comment on construit une maison. Il faut mettre des pierres, il faut mettre du ciment, les deux, sinon après ça tremble, ça tombe, il faut mettre des fondations, il faut mettre du fer. Je sais créer une voiture, je sais créer un ordinateur, d'accord. Le monde, grâce à la raison, peut connaître les lois du monde. La science, la science végétale, animale, humaine, informatique, ce sont tous des sciences, d'accord? Des sciences, qui, on voit qu'il y a une intelligence dans le monde. Grâce à ma raison, je peux aller et découvrir les lois qui gèrent ce monde. Je découvre l'intelligence qui gère ce monde. Ça, c'est possible au niveau du monde physique. Au niveau du monde métaphysique, c'est absolument impossible. On n'a aucun outil nous permettant de connaître la nature de l'âme, la nature de la vie, la nature du pourquoi des choses, etc. La psychologie va à tâtons. Psychologie, ça vient du mot psyché, qui signifie âme en grec. Logie, logos, qui signifie science, science de l'âme. Mais elle va à tâtons tous les 5-10 ans, t'as une nouvelle théorie qui vient, qui balance celle d'avant, et puis, bon, on voit que malgré tout, le monde va pas très bien. C'est un tour de magie comme ça, comme quelqu'un il a mal de tête, il prend une aspirine, il va bien, tu vas voir le psy, et c'est réglé. Des fois, ça aide, c'est clair, mais c'est pas suffisant. Le monde, en tout cas, dans sa totalité, n'est pas encore proche de la perfection. Plutôt le contraire. Là, il faut Torah. Il faut une révélation du créateur du monde qui vient et qui me dise maintenant comment ça fonctionne. Dès lors, la Torah, elle va me dire maintenant, au niveau privé de l'être humain, en tout cas du juif, si on parle du juif, va me dire, sache que tu es régi, tu es géré par 613 lois. Ça veut dire, tu fonctionnes d'après ça. On a 613, donc 365 négatives, 248 lois positives, qui correspondent à 365 veines matérielles et spirituelles. Et on a 248 mitzvahs positives correspondant à 248 organes matériels et spirituels. Lorsque nous faisons une mitzvah, on amène une lumière, un flux divin dans l'organe spirituel qui, en ricochet, le fait descendre à l'organe matériel qui va bien. D'accord ? On sait aujourd'hui que la médecine dit que la majorité des maladies sont psychosomatiques. C'est-à-dire qu'elles ont une source dans le psyché, donc dans l'âme, et il y a un symptôme qui apparaît dans le soma, dans le corps. Paradoxalement, la médecine ne sait pas comment soigner le psyché, elle va soigner le symptôme qui est dans le corps. Mais c'est un paradoxe, qu'il faudrait aller toucher la source. On voit bien que tu touches là, après ça ressort par là-bas, enfin, c'est pas une bonne solution. Mais vu qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, donc tant qu'à faire, Jouran Aouk dit, la Torah a donné le droit, elle permet d'utiliser la médecine. D'accord ? C'est pas la meilleure des solutions, idéalement. On n'a pas mieux aujourd'hui, mais idéalement, il y a des gens qui font ce travail, aller voir quelle est la source, pourquoi, qui, quoi, une introspection, et en émouna arriver à corriger ça. Ils arrivent. Il y a des gens par la émouna arrivent à enlever toutes les maladies, en tout cas beaucoup, beaucoup de maladies. Donc, idéalement, même pas idéalement, donc qu'est-ce qui se passe? On a les lois qui gèrent notre âme. Et notre corps reçoit un flux de l'âme. Lorsque l'âme va bien, le corps va bien, d'habitude. D'accord ? Donc la Torah, elle me donne maintenant le mode d'emploi du fonctionnement de l'âme. Maintenant, quelqu'un qui a fait un péché, est-ce qu'il mérite une punition ? Jamais de la vie. C'est comme si quelqu'un maintenant va passer outre une loi du corps. Quelqu'un saute du 4e étage, d'accord ? Et il se fracasse les jambes. Je suis gentil, il ne s'est pas fracassé la tête, il fracassait que les jambes. 3e étage, il s'est fracassé la jambe. Tous les tarses et métatarses, la bouillie, d'accord ? On va lui dire, tu étais puni parce que tu as sauté du 4e étage. Il n'a pas été puni. Il y a des lois, Newton, d'accord ? Il y a une accélération de 9,81 à la seconde au bord de la mer, ça va très vite. Donc, tu as une force cinétique, boum ! Voilà mon cher ami. C'est une conséquence des lois qui gèrent le monde. Quelqu'un qui roule en voiture. Il est à 150 km à l'heure sur l'autoroute et il roule en cinquième et hop, il enclenche la marche arrière. Et sa boîte à la vitesse, elle fait ping, d'accord, un peu plus fort, d'accord. On va lui dire, t'as été puni, t'as les lois qui gèrent. Quand tu ne fonctionnes pas d'après les lois qui gèrent, ça fait un scratch. Maintenant. Tout cela est exactement, sans absolument aucune différence, la même chose au niveau de l'âme. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, d'accord ? Il a pris maintenant du TNT, et il a branché à son âme, et d'accord ? Carrette. Elle part en cacahuète, son âme. D'accord ? Chalel Shabbat. À cause d'une âme qui part en cacahuète, il y a des conséquences dans la vie. Il n'y a pas la bracha, ça ne marche pas, on s'enfonce, et tout qui va de travers. Shabbat appelle la source de la bracha, la source de la bénédiction, c'est le tuyau numéro un du flux d'en haut qui vient. Donc Dieu nous aime bien, alors la personne ne meurt pas sur place, mais dans sa vie, ça ne va pas. Il est sans bracha. Alors c'est Dieu l'a puni, ne punit personne. Dieu, il aime. La seule chose que fait Dieu, des fois il envoie des souffrances, c'est uniquement pour réparer. Des fois, quand quelqu'un maintenant, il a cette sale maladie, une chimiothérapie. Pour réparer, ça fait très mal, c'est douloureux, c'est terrible. Mais le médecin qui le fait tout pour sauver la personne. Dieu, quand quelqu'un s'est bousillé, va l'aider à se sauver. Comment? Il envoie des souffrances pour réparer. Il n'y a jamais, au grand jamais. C'est chrétien. En tout cas, c'est pas juif. De punition, de châtiment. Eh bien, qu'il y a l'emploi de ces termes dans la Torah, c'est un emploi imagé. Imagé. Les enfants ne comprennent pas très bien quand leur prof leur met une punition, d'accord, ou le papa donne une petite gifle sur la main de son fils, d'accord. Le fils traduit cela par une punition, alors que si le père le fait dans un but éducatif, c'est de l'éducation. Idem, dans la Torah, il n'y a jamais, jamais, jamais de punition. Il n'y a que des aides de Dieu. L'aide peut être agréable ou peut être extrêmement désagréable. Il n'y a que de l'aide. Dieu n'est que amour. Donc la notion de, alors dès lors, la notion de culpabilité, elle devient beaucoup plus. Tu avais une question?
Juste, oui, il n'y a pas de châtiment, il y a un quand il y a un effrayable, on fera l'héritage,
tout ça, ce sont toutes des réparations. Il n'y a jamais, jamais, au grand jamais, de punition. Lorsque le premier homme, il a péché, Dieu a dit au premier homme, ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pas, attention, pan, pan, pan. C'est comme quand tu as des panneaux, tu as un pylône électrique, et puis tu as une tête de mort, je veux dire. Tu vas là-dedans, d'accord, c'est ça. Maintenant, la réparation du premier homme, de son péché, c'est quoi? Que vu qu'il était, maintenant il avait ingurgité en lui le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il avait du mal en lui. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'était par la mort. La mort, c'est le plus grand tikkun, la plus grande réparation que nous faisons sur Terre. Il y a des gens qui sont des morts-nés. Pourquoi? Parce que la mort en elle-même, c'est une réparation du mal qui a été fait. C'est en aucun cas un châtiment. Parce que c'est bien d'avoir peur de la mort, parce que la mort en soi, c'est le moment où tu ne peux plus agir. Mais on voit que le premier homme, il aurait dû vivre éternellement. Et Dieu lui a dit, maintenant tu mourras, tu devras passer par une période de vie beaucoup plus courte. C'est pas la meilleure des choses. Oui, mais la vie de Olam Haba qui est après, c'est vrai que c'est une vie de proximité de Dieu, mais c'est une vie où tu n'as plus de libre arbitre. Donc tu ne peux plus agir. Tu ne peux plus agir. Donc quelque part, tu montes. Il y a quelqu'un qui a rien fait dans cette vie. Il monte pas beaucoup. Et c'est très, alors c'est dommage pour lui. Donc quelque part, on monte maintenant avec la mort, on monte toute faculté d'agir. Ce qui n'est pas toujours bien. En soi, si quelqu'un il a bien agi dans sa vie, etc. Tov yom hama, il va donc quelqu'un de bien, c'est mieux le jour de sa mort que le jour de sa naissance, parce que c'est fini, il n'y a plus de le mal, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de tentation du mal, et tu es uniquement dans le bien. C'est un bien en soi. Mais néanmoins, il y a aussi un point qui est moins bon, c'est que tu finis maintenant toute possibilité d'agir, de réparer. Donc ça n'existe pas la punition. Quand on dit dans la Torah, quelqu'un qui a transgressé maintenant, alors à l'époque du temple, il y avait des peines capitales, c'était que des réparations. C'est pour ça qu'avant que la personne ait une peine capitale, on lui dit de faire tchouva, pour que la réparation soit valable, plus valable, d'accord. Chaque souffrance que nous avons sur Terre n'est que réparation. Alors dès lors, la culpabilité, d'accord. La culpabilité, alors elle existe, comme je dis, mais c'est une chose à prendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire, le but, il n'est pas de se morfondre pour rester dans une situation morfondue et triste. La tristesse, c'est peut-être la avéra la plus grave. Rabbeinu Ari, la Kabbalah, elle dit, ce que fait la tristesse, aucune avéra ne peut faire. En mal. La tristesse, c'est le mal. T'as pas pire que ça. Parce que ça t'inhibe, ça te bloque complètement, t'as plus envie de rien. La culpabilité que l'entend la Torah, elle est un moyen qui me permet de changer et de me rapprocher de Dieu. Donc, il faut voir qui on est. Quelqu'un qui est solide, qui peut dire j'étais un crétin fini et je regrette et maintenant j'avance, et il le fait avec le sourire. C'est marqué Aïn Bocha Velev Sameach. Le jour de Rosh Hashanah, quand on sonne du shofar, on chante le piyout de sur Avraham Avinu, qui va égorger son fils. Roket Vanekad Vehamisbeach. Là-bas, il y a un passage où on dit Aïn Bocha Velev Sameach. Avraham Avinu est en train, il va égorger son fils, ses yeux larmoient et son corps est heureux. Ça, c'est la notion de tchouva juive. Ça veut dire, tu as les yeux qui larmoient, tu regrettes ce que tu as fait, qu'est-ce que j'étais bête, qu'est-ce que j'étais... Mais cette reconnaissance de l'erreur, elle provoque une proximité de Dieu tellement grande, je regarde ce que je fais. C'est comme tu vois, tu as fait une erreur vers ton père, d'accord ? Tu as vraiment été une ordure, d'accord ? Et tu viens à quatre pattes devant papa, tu dis, papa, je m'excuse, excuse-moi de ce que j'ai fait, vraiment, je regrette, excuse-moi. Et lui te sourit. Et tu te mets à pleurer. Alors, c'est quoi ce pleur qui se passe maintenant? C'est culpabilité. Alors, pour arriver à ça, tu as dû te dire, je ne suis pas bien, je me rends compte à quel point j'étais affreux. Et je regrette cela. Et tu en profites maintenant, tu es en rapprochement de Dieu, et de ton père, d'accord? Et il te sourit. Et tu te mets à pleurer de bonheur que tu regrettes ce que tu as fait, que tu rapproches de Dieu. Ça, c'est extrêmement positif. Alors, culpabilité dans ce sens, oui. Mais si quelqu'un n'est pas capable et il va commencer à se casser la tête dans les murs et être en tristesse, en aucun cas. Donc, c'est une chose qu'il faut, c'est comme un plat. D'accord ? Sans sel, c'est pas bon. Trop salé, c'est pas bon non plus. Il faut utiliser cette notion de culpabilité qui existe, c'est responsable de ce que tu as fait. Et ça a fait des conséquences. Maintenant, Dieu, qui est tellement miséricordieux, nous permet de réparer toutes les conséquences qu'on a faites. Comment ? Par le regret. Alors pour ça, il faut reconnaître qu'on a fait une bêtise. Regretter, le regret, ça va pas avec la culpabilité. Je regrette, ça veut dire, j'ai été bête. C'est bête. Quel gâchis. C'est cette terminologie, là, tous ces termes qu'on dit, d'accord, qui amène après, je prends mon soin de changer, et je sais maintenant, dès lors que c'est réparé, et je change, c'est extrêmement profitable, du moment que c'est fait intelligemment. Mais culpabiliser, par exemple, quelqu'un qui va dans l'éducation va culpabiliser ses élèves, va culpabiliser ses enfants, culpabiliser sa femme, culpabiliser lui-même, d'accord, tout ce qu'il voit, c'est il tire dessus, d'accord, et il casse tout son passage, et il détruit, non, en aucun cas. Le but dans tout le système que Dieu a créé dans le monde n'est que construction, il n'y a jamais destruction pour destruction, il n'y a que construction, et des fois, pour pouvoir bien construire, il faut reconnaître où est l'erreur. Là, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, donc il faut changer, aller là. Une partie du changement se fait par le regret. Le regret, c'est une expression de ma prise de conscience à quel point j'étais dans l'erreur. Quelqu'un m'a appelé il y a un quart d'heure dans mon bureau. D'accord ? Une dame qui est très amoureuse de son mari, et son mari est très amoureux d'elle. Et il s'avère qu'il y a beaucoup d'années, elle ne se rend compte maintenant qu'il l'a trompée pendant 2-3 fois. Boum badaboum. C'est terrible. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Qu'est-ce qu'on conseille? Voilà, qu'est-ce que je fais? D'accord. Bon, elle a bien fait, elle a mis dehors de la maison. Bon, très bien. Attends, ça dépend. Il y a un autre cas, ça, parce que, et là c'est trop courant en France, dans le monde entier je dirais. Il y a un autre qui a fait ça aussi. Et elle ne sait pas quoi faire. Alors c'est très clair, si le mari, il fait carpette, il chiale, il regrette, il embrasse le bout des pieds, je regrette, j'étais crétin, j'étais fini, c'est une bêtise, excuse-moi, je t'aime. Il lui fait tout le... que vraiment il regrette. Alors elle peut comprendre que vraiment il se rend compte de l'erreur. Et bon, ça arrive, l'erreur est humaine, il y a des tentations, des choses pareilles, et bien qu'elle est extrêmement touchée, elle accepte, elle pardonne, et ils reprennent. Mais s'il dit, bon ça va, c'est pas si grave. Ça, hein, bon, ok, bah, t'en fais pas un plat, et puis, ce serait plus sympa, peut-être, ça n'aurait pas arrivé, d'accord. Là, c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que la femme, elle est prête à accepter, et c'est ce qu'il faudrait. C'est mieux de ne pas casser un couple avec des enfants, quoi. C'est une erreur. Mais qui se rend compte de l'erreur, qui montre qu'il est complètement, qu'il se regrette énormément. Alors là, elle dit, ok, c'est bon, si le type, il chiale jour et nuit, il n'arrive pas à s'en remettre, il fait une dépression à cause de ça, elle est malheureuse, mais si il n'arrive pas à la même tristesse qu'elle a, alors quoi, elle se sent bafouée, elle sent que je compte pour rien. Il fait ça, il dit, ouais, bon, ça va, excuse-moi, je ne recommencerai plus. Terrible, idiot. Comprends ce que je veux dire. Donc, j'ai illustré cela, ça sera, j'ai pris cela pour illustrer que le regret, la culpabilité, d'accord, la reconnaissance de la culpabilité que nous avons faite, de l'erreur que nous avons faite, elle exprime l'amplitude du regard que nous avons. À quel point je suis éloigné de ça. Si je dis c'est pas si grave, ça veut dire que je suis éloigné peu. Si je dis c'est terrible, 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 mais comment j'ai pu faire ça? Mais ça veut dire que je suis loin de ça, donc je ne vais pas retomber. Et c'est une grande assurance pour Dieu et pour la femme que le monsieur ne retombera pas dans son erreur. Oui, oui.
Je veux savoir, il est bien que des fois la culpabilité peut nous servir à faire tchouva.
Oui.
La culpabilité, au contraire, nous entraîne à nous enfoncer encore plus.
Oui. En particulier, c'est ce que j'ai dit.
Souvent, chez les Bochim, tout le monde qui parle de l'échiva, comme on pense, c'est très souvent le cas.
Elle dit c'est du sel.
Et dans quel est l'élément qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait que.
Plus, plus quelqu'un est fort, plus il peut encaisser de la culpabilité et rester fort. L'essentiel, c'est d'être le plus performant possible. Si quelqu'un culpabilise, à cause de ça, il est inhibé, il ne peut plus travailler, il n'a plus de simra, il n'a plus de joie, de service de Dieu, je suis un nul, d'accord. Alors, cette culpabilité, elle est synonyme du mal. Elle a condamné, elle est anti-Torah, et c'est le mal dans toute sa splendeur. Alors, la personne maintenant qui n'est pas forte, et c'est le cas de notre génération qui est nulle, d'accord, les gens sont très faibles, tu lui fais un petit pic comme ça déjà, il chancelle complètement, alors lui, c'est certainement pas conseillé. Et aujourd'hui, c'est clair, c'est très connu, que dans l'éducation, on doit utiliser 99%, c'est pas approximatif, c'est vraiment comme ça, 99% uniquement d'encouragement. L'encouragement est beaucoup plus profiteur que la culpabilité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On n'arrive presque à rien à la culpabilité aujourd'hui. À quoi ça sert? Quelqu'un qui est au niveau 2, et ça l'aide à travailler, très bien. Alors c'est chacun maintenant à... Je vais raconter très souvent, quand on fait du moussard, d'accord, le moussard, c'est donc ces textes-là qui nous mettent la pêche pour avancer en avant. C'est ça, le but c'est d'être le plus performant possible. Alors t'as des moussards qui sont très dans l'encouragement. T'es fantastique, sache... Si tu savais qui tu étais, tu dis un mot dans le ciel, les milliards d'anges prennent ce mot, l'embrassent, vont le mettre sur la tête de Dieu, d'accord. Si tu te rends compte, et il a prié, maintenant chaque mot de la prière, il fait bien, il fait sa bracha. Ou bien, t'as fait une bracha sans kavana, t'as rappelé le nom de Dieu, mais c'est ce que l'Agmara a dit, qu'on mérite qu'on lui donne un coup de hache dans la tête. Tu te rends compte ce que t'as fait, espèce de crétin fini, d'accord. Les deux sont vrais. Alors, il faut l'utiliser intelligemment. C'est comme, c'est l'éducation, comme un enfant. Un enfant, il est amené 2 sur 20. D'accord, tu peux lui dire, t'es un crétin fini, tu es encore enfoncé. Il dit, ok, c'est pas grave, la prochaine fois tu feras mieux, Bezrat Hashem. Après, la fois d'affaire, il a fait 2,5 sur 20. Oh! Oh! Ah! On appelle papa, grand-papa, le temps, la truc, on met des annonces partout. Extraordinaire! Tu sais ce qu'il a fait maintenant? Il a fait un demi, ça fait un cinquième en plus, ça fait combien? 25% même en bourse, on n'a pas de truc pareil. 25% de progrès en une semaine. Mais c'est la fortune, c'est génial, bravo, on le sort, un gâteau, tout ça, un prix. Le gosse, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa chambre, il prend son truc de maths, et il ouvre, il se met encore à bosser, c'est clair. C'est clair que l'éducation aujourd'hui, elle fonctionne beaucoup mieux avec le positif que le négatif. Maintenant, cette notion négative, elle existe. Mais apprendre avec beaucoup, 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 beaucoup de pincettes. Il y a très, très peu. Le but, il est que tu sors de l'opération de culpabilité avec le sourire. Si quelqu'un sort de culpabilité avec la tristesse terrible, il y a une tristesse. Il faut un regret, d'accord. Mais il faut qu'en fin de compte, l'opération, ce n'est pas 5 minutes, des fois, ça peut être prendre une semaine ou un mois, je ne sais pas. Il faut que tout cela soit dans la construction. Mais culpabiliser pour détruire et rester dans une tristesse, c'est synonyme de mal.
Culpabilité et tchouva, c'est différent.
Une des trois conditions de tchouva est le regret. La reconnaissance qu'on a fait, c'est la première. Deuxième, c'est le regret. Et le regret, plus le regret sera grand, plus la tchouva sera grande. Le regret ne peut exister qu'avec une conscience des dégâts, du mal qui a été fait.
Si on n'en est pas conscient, enfin, si on n'arrive pas à regretter, on sait que c'est pas bien, c'est une faute, on a fait un truc basique et on n'est pas quelque chose de grave.
Ouais. Alors toi, tu demandes une autre question maintenant. Comment on arrive au regret? Bon, alors il y a deux sortes de tchouva. Deux cas où quelqu'un fait tchouva, comme ça explique le rabbin Yonah. Quelqu'un qui est à un niveau. Et il fait une erreur ponctuelle. le regret immédiat. Pourquoi ? Parce que cette erreur, elle est hors norme chez lui. Donc tout de suite, il se rend compte, qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord ? Là, c'est facile. Par contre, quelqu'un, il est à un certain niveau, où il est habitué à faire un certain péché. Et maintenant, il veut regretter. Il veut faire tchouva. Il ne peut pas regretter. Ce regret, c'est une distanciation par rapport à ce que j'étais. C'est, je me rends compte que ce que je fais n'est pas bien, à un point tel que maintenant, je change. Or, comment tu peux dire que tu vas changer alors que tu es toujours au même, que tu changes, tu es au même niveau. Là, il faut artificiellement faire des efforts pour changer de niveau, monter, tenir bon. Au bout d'un moment, quand on tient bon au nouveau niveau, alors on peut commencer à se rendre compte qu'est-ce que j'ai été crétin quand j'étais au niveau d'avant. Et là, faire chouva. Tu comprends ? Il faut d'abord artificiellement se mettre à niveau. Une fois qu'on a atteint le niveau numéro 2, on tient bon, alors là, on commence à regretter beaucoup ce qu'on a fait. Et maintenant, pour regretter, alors là, c'est bien de lire des livres culpabilisants. Si tout le temps, tu sens que tu n'arrives pas à regretter. D'accord ? Alors, prends des livres qui te disent, voilà, celui qui fait ça, ça lui arrive ça, et ça, et ça, et ça, bah. Tu vois, tout ça, tu dis, non, mais j'étais complètement fou de faire un truc pareil.
Sans tristesse.
Hein ? Sans tristesse. Imagine la femme, voilà, son mari vient, elle lui dit, j'ai été bête et tout ça. D'accord ? Elle lui dit, bon, ok, c'est sa réparation, et c'est agréable, c'est beau, ça c'est la réunion ensemble. C'est la plus belle histoire du monde, la tchouva. Il ne faut pas qu'il sourie en même temps. Je fais un clin d'œil. Ça va, t'es encore... Non, je veux que ce soit encore... Clic. Non. Il est morfondu. Mais il comprend quelque part que ce fait de se morfondre, c'est ça qui amène la proximité. Et il le sait.
Quelqu'un qui aussi qui est arrivé, qui commence un processus, tout ça, et que dès bon, il arrive, pas comme vous avez dit, il monte un niveau, ensuite il continue ce niveau, et il regrette. Il arrive, il se rend compte de certaines choses, il regrette grave. Et ça se passe, il est toujours en ce processus et tout. Et après il se rend compte que. Enfin il se rend compte. Il regrette pas, au bout d'un certain moment, au bout de 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, il regrette pas autant.
Qu'il faudrait.
Qu'il avait regretté la prochaine fois. Il fait plus la chose.
Que plus la verra. Alors je dis, si quelqu'un il veut.
Il dit, oh, je voudrais pas.
Alors Rabbeinu Yonah a dit, en fonction du regret, comme ça est la tchouva. Plus le regret est grand, plus la tchouva est grande. Alors c'est bien, si on sent qu'on doit encore un peu laver le passé, de lire des bouquins qui vont nous sensibiliser sur la gravité ou le dommage qu'il y avait à faire ces choses-là. Comme ça, je vois, je me réveille de nouveau, je me rends compte, c'est pas comme je croyais, puis à ce point, c'était grave, oui, etc. Ça me fait mal que moi-même, j'ai été là-dedans. Et donc, je dis à Dieu, je m'excuse de ce que j'ai fait, je regrette.
C'est les conséquences, c'est la gravité, c'est la gravité, la chose.
Lire là-dessus, savoir, regarde, c'est comme fumer la cigarette. Tout le monde sait que c'est pas bien. Quand tu vois un film, de 2 heures sur les méfaits de la cigarette, et tu vas à l'hôpital en section oncologique pulmonaire, section finale, d'accord, phase finale, c'est normal que ça te touchera beaucoup, bien que tu sais que c'est pas bien. Alors tu vas lire maintenant des bouquins, par exemple, alors, le must en la matière, tout ce qui concerne les intentions sexuelles, le fait de regarder les filles, etc., le chemin à tabré, tout ça, c'est le livre Tarat à Kodesh de Rav Aaron Raté. C'est le must en la matière. Et lui c'est un très bon bouquin, qui est divisé en deux parties. Tu as des chapitres. Les conséquences graves qu'amène ce type de péché, le grand mérite de celui qui se retient. D'accord ? Alors, tu as de nouveau, tu as le bâton et la carotte. Alors tu dis le bâton, c'est un beau gros bâton bien lourd, d'accord, c'est... Tu lis ça, voilà, ça c'est pour au niveau. Maintenant, tu veux sur la Shonara, lis le bouquin du Chavetz Chaim, la légende du Chavetz Chaim. Tu veux lire sur d'autres choses, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, sur chaque sujet, en gros, il y a des livres qui te disent...
C'est en français le premier que vous avez donné ?
Renaté, non. Grande mystère de le traduire. Quelqu'un a un besoin vraiment, il veut un peu se réveiller un bon coup, alors qu'il prenne ça. Je vous dis, c'est de la cuisine. Il en faut un peu, mais pas trop. Sans ça, alors tout va mieux dans mer de monde, j'ai rien fait, tout va très bien, je suis chez Yosef, j'ai mon billet pour le paradis. Non, c'est pas comme ça. Si tu commences à lire trop tout ça, tu c'est fini. Tu te lèves plus le matin, tu es déprimé dans ton lit toute la journée, parce que il y a 40 000 ans, tu as fait une bêtise. Les deux sont des extrêmes. Il faut trouver le juste milieu qui est être le plus performant, du bâton et de la carotte. Et très peu de bâton pour beaucoup de carottes. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.